Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous avec ma femme d'aujourd'hui. On va découvrir qu'un parcours professionnel peut justement se découvrir avec le temps. Après les études, le diplôme, le parcours classique, eh bien, ce qu'on appelle la vocation peut apparaître assez tardivement, mais ce n'est jamais trop tard.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Mehdi, l'ami, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie l'Allemriyum.
Très très bien, et toi, et merci à toi de m'avoir invité à passer sur Mehdi 1. Je remercie aussi toute l'équipe technique.
Un grand plaisir. Alors dis-moi Mariam, combien de vies professionnelles as-tu pu vivre?
Trois.
Trois, ok. Alors avant de les détailler, est-ce que chaque vie professionnelle change aussi ton parcours personnel?
Ah oui, c'est une relation très liée, c'est sine qua non, et chaque relation professionnelle, on en sort avec une richesse humaine et personnelle. Ça nous aide à nous développer autrement, mais quand et à nous redécouvrir et à se réinventer.
Alors, qu'est-ce qui motive, c'est l'œuf ou la poule? Qu'est-ce qui a motivé à chaque fois ces trois changements professionnels? Est-ce que c'est le personnel ou là, ça a été purement professionnel?
Pas du tout. En fait, au début, c'était professionnel. C'était à chaque fois un changement c'est une ambition, c'est une motivation, c'est de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Mais à chaque moment de ma vie, je me sentais un petit peu vide. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui manquait. C'est comme si je n'avais pas encore trouvé mon chemin, le sens, donner un sens à ma vie, à ce que je fais. Et à chaque fois, j'étais à la recherche de ça dans chacune de mes vies professionnelles.
Pourquoi je te pose la question? Parce que souvent, on dit que pendant très longtemps, on a dit que le personnel et le professionnel n'étaient pas liés. On dit aux gens, quand vous arrivez au bureau, vous oubliez votre vie personnelle derrière vous. C'est comme si, en fait, on scindait la personne en deux. Et là, on a compris, enfin, que ce n'était pas possible, en fait.
Ce n'est pas du tout. En fait, c'est très difficile de le faire. Il faut à chaque fois qu'on puise dans notre côté personnel et nos valeurs et nos principes pour pouvoir compléter cette partie professionnelle. C'est très difficile. En fait, c'est un exercice qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut un travail sur soi pour pouvoir le faire. Si je prends l'exemple, j'ai travaillé à un certain moment avec ma famille. Et c'est très difficile de scinder et de dissocier. Au bureau, c'est monsieur X ou Y ou madame telle ou Y. Et une fois sortir de la sphère professionnelle, juste au parking, c'est je suis la fille ou la nièce ou la cousine. Donc, et c'est un exercice qui est difficile, hein. Ce n'est pas un exercice tout à fait à la portée. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'à chaque fois, il faut faire cet aller-retour entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce qu'on est en train de développer, on travaille sur nous, on travaille sur soi, on est dans le développement personnel. Et certainement, ça va aider. Ça va aider dans un sens comme dans l'autre, tout simplement.
Alors, cette expérience professionnelle familiale, c'était la première?
Non, pas du tout. Ce n'était pas la première, c'était la dernière. L'avant-dernière.
L'avant-dernière. Ouais. Allez, je vais vous dire la chronologie de ta vie professionnelle.
Oui. Alors moi, j'ai commencé tout simplement, je ne sais pas, je te laisse peut-être poser la question.
C'est-à-dire que des études de quoi qui t'ont amené vers quoi d'abord?
Alors, des études commerciales dans une grande école de la place prestigieuse de commerce. Par la suite, j'ai arrêté un moment. Enfin, c'est pas que j'ai arrêté. J'ai pris mon diplôme. J'ai travaillé dans l'entreprise nationale, multinationale, tout ce qui est lié au marketing, au merchandising, à la direction commerciale. par la suite, je me disais non, j'ai encore cette avidité d'apprendre. J'ai complété par un MBA à l'étranger, dans une grande université, encore une fois, à Paris. Et voilà, j'ai dit là, j'ai une nouvelle casquette, je vais encore je vais découvrir autre chose. Mais j'étais toujours, j'avais toujours cette soif, cette avidité d'apprendre autre chose, de faire autre chose. Bah, certes, ce sont des expériences riches, exigeantes, passionnantes et qui m'ont beaucoup appris sur le monde professionnel et sur moi-même aussi. En parallèle, je suis femme, je suis épouse, maman de 3 enfants. Donc j'avais une vie qui est toujours assez bien remplie, pleine de défis, d'équilibre, à trouver aussi entre ma vie professionnelle et personnelle. Des priorités aussi à redéfinir pour beaucoup de femmes d'aujourd'hui. Hein, c'est le cas de toutes les femmes aujourd'hui. Et puis, à un moment de ma vie, j'ai eu envie de créer, de me lancer à mon propre compte, de tester encore une fois mes idées. Et c'est là où l'entrepreneuriat est entré un peu dans ma vie. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est agencement d'espace, que ce soit pour les particuliers ou alors pour les boîtes, les grandes entreprises, les professionnels.
Et ça n'avait rien à voir avec ta formation initiale ?
Pas du tout. En fait, dans ma formation initiale, à un certain moment de ma profession et tout, j'ai eu contact avec des décorateurs, des architectes. Et là, j'ai pris goût. Il faut dire aussi que moi, je viens d'une famille un petit peu artiste. Donc, j'ai baigné un peu dans tout ce qui est architecture, tout ce qui est art, tout ce qui est patrimoine marocain. Donc, j'ai baigné aussi dans ça. Et là, j'ai pris goût à tout ce qui est agencement d'espace. Et j'avais eu contact avec des architectes, avec des décorateurs d'intérieur, avec des proprios de, comment on appelle ça, des usines de toutes les créations de mobilier, de tissus. Donc j'étais un peu dans la déco, dans la couleur, dans la tendance, et j'ai touché aussi à ça. Donc du coup, ça a commencé par ça, pour l'entrepreneuriat, pour mon propre compte, et par la suite, encore une fois, toujours dans tout ce qui est art, c'était l'art déco et la vaisselle, tout ce qui est vaisselle et vaisselle de haut de gamme. Donc ça, c'était dans le cadre de l'entrepreneuriat. Mais malgré tout ça, malgré tous les diplômes, les projets, aussi les réussites comme les échecs, il y a aussi des petits échecs et on apprend de nos erreurs. Ce qui est formidable aussi, c'est ça, c'est pouvoir rebondir et c'est pouvoir avoir développé cette résilience et de dire ce n'est pas fini, je n'ai pas peut-être encore trouvé mon chemin et là je dois encore réfléchir et se remettre en question. Il y avait toujours quelque chose qui me manquait, cette pièce manquante, comme je t'ai dit au début, à mon puzzle, tout simplement. Et puis parfois, il y a juste une discussion anodine qui peut tout changer, qui peut tout basculer. Et on a le déclic. Et c'était une discussion toute simple avec ma sœur, avec ma mère. On était en train de parler de l'éducation, des enfants. Et moi, je suis une personne qui lit beaucoup, surtout quand j'ai eu mes premiers enfants. Ce sont des jumeaux, mes premiers garçons. Et je lisais beaucoup. Comment faire, comment les éduquer, comment avoir une éducation qui n'est pas laxiste et en même temps positive, bienveillante, on va dire. Il n'y a pas d'éducation positive et négative, mais juste une éducation bienveillante. Je lisais beaucoup, j'avais toujours ce lien avec les enfants. J'étais toujours parmi les mamans accompagnatrices pour les sorties. J'étais toujours présente dans toutes les instances de conseil de classe. Donc, j'avais cette envie de l'humain, toucher à l'humain, aider l'humain, accompagner l'humain.
Allô ?
Position aussi un défi, pourquoi ne pas se lancer dans les sciences de l'éducation ?
Waouh ! Quel shift, Myriam Zema, incroyable !
Voilà, donc je me suis lancée... Donc ça, j'étais, on va jeune, oui, jeune et pas très jeune, on va dire. C'était pas le début de mon parcours, c'était vraiment au milieu, voilà, on va dire, de ce parcours de vie. J'ai dit,
Alors, pardon,
il
une
n'est
petite
jamais trop
question quand
tard.
même. Est-ce qu'on va arriver... Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est ça que tu fais avec passion et amour?
Avec une très grande passion et amour, et ça fait maintenant 8 ans que je suis avec les enfants, dans l'accompagnement des enfants, des familles. Et tu sais, Yasmine, quand tu reçois ces sourires innocents, surtout venant des enfants, des petits mots, des petites attentions, et c'est formidable. Et c'est ça qui m'anime tous les matins, c'est ces sourires-là, c'est pouvoir aider, pouvoir accompagner, et donner et recevoir, en fait, c'est un lien formidable. C'est un lien qui est formidable.
Alors, j'imagine que tu as dû entendre, mais pourquoi tu vas faire ça quand même? Tu as un MBA,
Ah
tu peux,
oui, ah
tu
oui,
peux
mais bien
être,
sûr.
tu peux décrocher les plus grands postes dans les plus grandes multinationales, tu peux
Tout
lancer,
à fait,
tu peux te
tout
lancer dans le conseil,
à fait.
tu peux. Mais
Oui.
alors, pour l'avoir vécu aussi, je pense que sans ton MBA, tu n'aurais pas pu faire ce changement. Pourquoi? Parce que dans la
Oui.
formation du MBA, on a, c'est une formation 360 sur plusieurs compétences et sur plusieurs entre le savoir-faire et le savoir-être. Et on nous apprend aussi, en fait, nous explique l'importance du pivoting, de s'adapter
Oui.
et notamment de s'adapter à soi et à son marché. Et je pense que le MBA t'a sorti un peu du monopiste et t'a emmené plutôt vers une réflexion multipiste.
Tout à fait, tu as tout à fait raison pour ça. C'est cette grande adaptabilité. Et c'est vrai, et ça, on l'apprend, que ce soit même pour mes études, mon bachelor ou alors mon MBA, c'était ça, c'était de pouvoir faire ce virage de 360 degrés, comme tu dis, et rien ne... En fait, c'est à chaque fois, c'est un défi, c'est un challenge. Voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut juste être outillé, se former et aller. Voilà, c'est se lancer. C'est vraiment ça, et ça m'a vraiment aidé, hein, ça m'a beaucoup aidé.
Comment tu
Après, par la
répondais
suite...
justement à l'entourage quand on te disait, mais pourquoi tu vas aller t'occuper avec toute la noblesse du métier, mais on va se dire, elle a roulé sa bosse, elle a de grands diplômes, elle a da. Et là, ce qu'elle veut faire, elle veut s'occuper des enfants.
Ben écoutez, je disais tout simplement que pour moi, alors c'est un défi, oui, c'est un challenge, oui. Je connais mes limites, je connais mes compétences et je sais que je vais pouvoir réussir en ça. Je veux donner un sens à ce que je fais. Je veux donner un sens à ma vie, à ce que je fais, à mon métier. Et c'est formidable de faire de ça. Alors après, c'est un métier, mais par la suite, j'ai découvert que c'était une passion et que j'étais passionnée par ça. Et je traçais mon chemin. En fait, tout, voilà, bien sûr, j'ai entendu ça, mais pourquoi tu vas faire ceci? Mais est-ce que tu es folle? Tu vas lâcher, tu as un très bon diplôme, deux diplômes, même pas un diplôme, tu en as deux, tu peux décrocher un poste là, là, là. Mais c'était pas ça en fait. Moi j'étais très voilà très décidée, sans hésitation. J'ai dit je vais le faire. Je vais le faire. Je pourrai le faire. Je vais essayer. Je vais me lancer. Si je vois que je suis, parce que ce qui va t'animer tous les matins, c'est cette passion, c'est cette motivation. Si je vois que tous les matins je me lève et je suis heureuse. Je pars, je vais à mon travail, à ce métier-là, avec joie, avec bonheur, de partager, d'accompagner, je le fais. Tant que si jamais je me réveille un matin, et à chaque fois je me dis ça, j'ai dit, alors Mariam, si jamais tu te réveilles le matin et en allant, enfin sur le chemin, tu es aigri, tu es désagréable et que tu n'aimes pas ce que tu vas faire dans la journée, autant arrêter.
Et
Parce
alors,
que ce
pardon, une
sont des
petite
ondes qui
question.
sont transmises finalement.
Absolument. Dans tes vies passées professionnelles, tu avais ce sentiment? Et est-ce que aussi tu avais cette prise de conscience de toi? De tes émotions par rapport à ton environnement professionnel.
Pas du tout, je n'étais pas du tout dans la prise de conscience. En fait, je travaillais. Pour moi, c'était ça. C'était un chemin tracé. C'était une checklist. Check, check, check. Diplôme, voilà, le bac E avec mention bien. Diplôme E, A, après, allez, mariage, enfant, allez, ensuite on passe. Allez, le diplôme 2, OK, c'est E, travail, boulot 1, boulot 2, c'est bon. Évolution de carrière, augmentation de salaire. Mais à chaque fois, ce n'était pas ça, en fait. Et je me dis, oui, mais. Et à un certain moment, c'était la réflexion. Peut-être c'est aussi la maturité émotionnelle. Ça
Exact.
vient aussi avec l'âge. Et aussi, je le dis et je le redis, c'est un travail sur soi. C'est un développement personnel. À chaque fois, il faut s'arrêter. Et voilà, s'arrêter pour dire, alors, où est-ce que je suis? Où est-ce que je souhaite aller? Et se remettre en question. C'est cette remise en question aussi qui aide à se développer autrement.
Cette remise en question, est-ce que tu penses que tu aurais pu l'avoir plus tôt? Tu as dit une chose qui est très belle, c'est la maturité, l'expérience de la vie. Moi, dans Femmes d'aujourd'hui, il m'arrive parfois de rencontrer, d'interviewer des jeunes femmes très jeunes qui ont cette lucidité d'elles-mêmes. Mais elles sont rares, elles restent rares. La plupart, c'est un éveil. Je ne veux pas dire réveil, mais un éveil de conscience, un
Oui,
éveil de soi, passé 35 ans.
alors, je ne sais pas est-ce que c'est lié avec l'âge, mais moi, j'ai rencontré pas mal de femmes et de jeunes femmes qui ont eu cet éveil justement de conscience avant les 35 ans. Et c'est formidable. Alors, je ne sais pas est-ce que c'est lié aussi aux rencontres qu'on fait dans notre vie. Des fois, on rencontre voilà, des âmes, des femmes, de belles âmes, de belles femmes, et qui nous aident un petit peu, qui nous lancent des messages et qui nous disent, ben voilà, allez-y. Il y a toujours cette petite voix, tu la connais, Yasmine, cette petite voix qui est à l'intérieur de toi, qui te dit, Brahim, fais-le, Yasmine, fais-le.
Oui.
Tu peux le faire, tu peux le faire. Vas-y, lance-toi. Mais pourquoi tu reportes ça pour demain? Mais pourquoi tu t'oublies? Mais pourquoi? Et moi, j'avais tout le temps ça, j'avais tout le temps ça. Et je l'ai encore, hein. Tu sais, je suis toujours en train de chercher à faire sortir de moi une meilleure version. À chaque fois, voilà, c'est vrai que, comme tu dis, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, il y a celles qui vont avoir cet éveil à 35, d'autres peut-être avant et d'autres un peu plus tard.
Exact. Et d'autres jamais.
Et d'autres jamais. Et
Jamais.
c'est bien dommage.
Ouais. Et le jamais, je pense que c'est aussi une peur personnelle. On freine un petit peu. On
La
freine.
peur de sortir de sa zone de confort.
Ouais.
Parce qu'il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Et moi, le fait de sortir de ma zone de confort, moi, cette expression, je l'applique en tout, même en sport. C'est-à-dire que même pour faire mon sport, je dis, ah non, ça y est, je suis fatiguée, je ne sais pas. Et après, je dis, ben non. Allez, Mariam, vas-y, tu peux le faire. Tu peux aller plus loin. Tu peux faire 10 squats au lieu de 5. Tu peux faire 2 minutes de gainage au lieu de 1 minute. Donc, à chaque fois, je suis à la recherche de aller plus loin, aller plus loin.
Ouais. Ça te fatigue parfois?
Après,
T'as envie de, pas le sport, mais dans l'absolu, est-ce que tu te dis, bon, maintenant, il faut que je me pose?
il faut savoir se poser. C'est important parce qu'on ne peut pas à tout moment, à chaque fois, changer, changer, changer. Puis finalement, on ne va pas apprendre grand-chose. Il faut savoir se poser, il faut savoir donner le temps aux connaissances de s'asseoir, voilà, d'absorber, d'accueillir, de temporiser, de réfléchir. Ben, voilà, on ne peut pas rester tout le temps dans cette remise de questions. Elle est aussi fatigante, c'est une charge
Absolument,
mentale.
c'est ça.
Une charge mentale et cognitive. À un certain moment, on a besoin de s'arrêter, de se poser et de laisser les choses couler et suivre un petit peu la vague, tout simplement.
Alors, quand tu as démarré cette nouvelle vie professionnelle, est-ce que tu savais d'emblée que tu allais aimer?
Non. En fait, j'étais hésitante. J'étais un petit peu dans le doute. J'ai dit, alors, comme c'est un lien direct avec l'humain. Je me disais, alors, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer? J'avais le doute, bien sûr que j'ai douté un petit peu de moi. Mais une fois que j'ai passé, que la première année est passée avec brio, et là, c'était une joie immense. et je me suis félicitée. Et je me, voilà, j'étais très fière de moi. Et d'une année à une autre, parce que tu sais, Yasmine, d'une année à une autre, j'innove. Mm. J'ai fait de nouvelles choses. C'est-à-dire que là, maintenant, oui, j'ai commencé en étant une professeure, on va dire, une enseignante. Et là, maintenant, avec la confiance du groupe où je travaille et avec la confiance de l'établissement, je suis une enseignante, mais aussi, pas tout le temps, pas toute la semaine, mais aussi je m'occupe de tous les enfants ayant des difficultés et des difficultés scolaires et des troubles, enfin des besoins spécifiques, des besoins éducatifs particuliers.
Oui, oui.
Je suis dans l'accompagnement de ces enfants-là avec leur famille. Et là, okay. c'est un autre tremplin
oh, ouais.
vers autre chose. Et c'est là aussi qui m'a un petit peu poussée à aller chercher encore plus loin dans tout ce qui est accompagnement pour ces, pas que pour ces enfants-là, mais c'est un autre type d'accompagnement. Et c'est là où j'ai découvert, et récemment j'ai fait une formation, et là je suis une praticienne au neurofeedback dynamique.
D'accord. C'est-à-dire ?
C'est à travers ça que j'ai connu ça, en fait. C'est un peu lié. En fait, c'est une approche innovante qui m'a permis encore d'aller plus loin dans l'aide et le soutien aux enfants, adolescents. Et là, ce n'est pas que les enfants, c'est les enfants, adolescents et adultes. Et c'est... qu'est-ce que c'est ? C'est une manière d'aider autrement. C'est okay. juste en permettant à l'esprit, au cerveau... Enfin, le cerveau, c'est un muscle. Il a besoin d'entraînement. C'est un entraînement cérébral. Afin de lui redonner confiance, l'apaiser et l'aider à mieux se concentrer et à être mieux attentif. Et ça peut, c'est une méthode qui est non invasive. C'est un peu comme toute autre thérapie, comme l'hypnose, comme toute autre thérapie, sauf que c'est un entraînement cérébral qui agit sur les cerveaux et lui donne des choix. Il lui dit tout simplement, ben, rappelle-toi, avant tu pouvais faire ceci ou cela. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui a développé une phobie, alors qu'avant, il prenait l'avion sans problème. Mmh. Arrivé à un âge, il n'arrive plus. Et là, il y a d'autres troubles qui viennent avec cette phobie. Mais là, avec cet entraînement-là, on est juste en train de dire au cerveau, ben, ne stresse pas, ne panique pas. Avant, tu pouvais le faire, tu savais le faire. Et là, il faut juste t'entraîner et reprendre confiance en toi.
Mmh. Donc, ça, oui.
C'est ça un peu le...
Donc, en fait, cette neuroplasticité, tu te l'as appliquée à toi aussi en réalité.
Oui.
En réalité, c'est ça. Merci infiniment, Mérima Alami, d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci aussi à Média.
Merci. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.